Bonjour, c'est Axel Hervel, bienvenue dans Vestiaire.
Axel Hervel, bonjour.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, Axel Hervel, c'est une très grosse carrière au niveau pro de 20 ans. Des débuts au Verviers Pupinster à l'âge de 17 ans, puis des passages par le Real Madrid, Bilbao, avant de terminer à Charleroi en basket. Donc 4 clubs différents au cours d'une carrière. Finalement, c'est pas tant que ça. Est-ce qu'on peut te considérer comme un vrai clubman ? Est-ce que c'était l'une de tes valeurs ?
Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours aimé, la stabilité et la construction dans un projet. J'ai toujours fonctionné aussi au challenge. Et je pense que dans toutes mes étapes, il y avait vraiment une motivation, un challenge et des raisons pour lesquelles je voulais m'impliquer dans le club sur du long terme.
En parlant de challenge, arrivé à Verviers Pupinster à l'âge de 17 ans, c'est quand même très jeune. Comment s'est passée cette étape pour toi ?
Toujours une période très importante, cette transition entre jouer au basket pour le loisir et professionnel. Et transition, je pense, plus ou moins facile chez moi, mais qui a été aidée aussi par la philosophie mise en place à l'époque par le club et le travail de Nick Sabasevic, qui a beaucoup cru en mes capacités et en nos capacités, puisqu'on était plusieurs jeunes dans la même configuration à cette époque-là. Et je pense que c'est une transition qui s'est passée relativement très bien pour tout le monde.
Tu as été capitaine à l'âge de 20 ans déjà, à Pupinster. C'est quoi le marque d'une maturité très précoce chez toi dans le basket ?
Je pense que c'était le choix du coach pour justement, oui, cette raison que tu invoques, c'est la maturité, le professionnalisme et avoir les idées claires. Donc je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais faire et les objectifs étaient clairs pour le club et on savait ce qu'on devait faire pour gagner. Donc oui, plus qu'un capitaine, j'étais plutôt un leader par exemple, leader by example, parce que je ne pense pas que j'étais suffisamment mature pour pouvoir communiquer avec les autres ou gérer un vestiaire comme je l'ai pu le faire par la suite, mais montrer en tout cas l'exemple au quotidien, travailler et essayer d'atteindre les objectifs.
Tu as toujours eu un caractère bien trempé sur le terrain. C'est quelque chose qui t'a aidé justement à passer les paliers dès ton plus jeune âge ?
Encore une fois, c'était cette volonté de réussir et je mettais tout dans mes moyens pour atteindre mes objectifs et ça passait par la rigueur et par l'optimisation de tout ce temps passé sur le terrain et être professionnel, donc c'est-à-dire que ça avait un impact aussi sur ma vie au quotidien personnel, donc être professionnel tout simplement.
À 21 ans, tu es transféré au Real Madrid. Quand on passe quand même à cet âge-là, qui est relativement jeune, d'un club comme Pupinster, dans un club immense comme le Real Madrid, comment est-ce qu'on perçoit cette transition ? Est-ce qu'on n'est pas un peu déboussolé au début ?
Oui, c'est un passage très difficile où j'étais dans un environnement très familial, où l'ambiance à Pupinster était exceptionnelle, à un cadre hors famille justement, dans une langue qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est clair que ça demande un temps d'adaptation et c'est ça aussi la beauté du sport. C'est que si on veut pouvoir réussir, il faut s'adapter, tout simplement.
Et les adaptations principales, c'était quoi ? Parce que quand on arrive au Real Madrid, qui est-ce qui est le plus, je vais dire, marquant quand on arrive et qu'on voit ces installations, la mise en place du club ?
Donc tout est mis en œuvre justement pour que la vie du professionnel soit la plus simple possible et uniquement axée sur les performances. Donc par rapport à ça, c'était relativement facile. Maintenant, il y a des exigences et c'est se mettre à la hauteur des exigences du coach et du club. Après, il y avait toujours une barrière de langage parce que tout se faisait en espagnol, les consignes, la vie. Donc là, c'est de l'adaptation et une compréhension et un travail sur soi-même pour apprendre le plus rapidement possible.
Oui, c'est arrivé vite, la maîtrise de la langue espagnole chez toi ?
Alors, l'espagnol, c'est une langue qui est fort similaire et simple à l'anglais. Donc, il y avait déjà un travail à Pupinster sur l'anglais, parce que Nick Sabasevic travaillait uniquement en anglais. Et je pense que mon adaptation par rapport à la langue espagnole a été rapide aussi.
Au Real Madrid, il y a un gros fait marquant, c'est que tu gagnes une Coupe d'Europe, la Coupe ULEB. Et il se veut que cette finale se joue au Spirou, ici au Spirou Dôme. J'imagine que ça, c'est quelque chose quand même qui, c'est un souvenir qui reste très haut dans ton esprit.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Europe dans son pays, à Charleroi. Donc c'est clair, c'était devant sa famille, devant ses amis. Donc c'est clair que c'est un moment marquant de ma carrière, certes.
Les émotions étaient au maximum à ce moment-là ?
Certainement, oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de vivre de moments beaucoup plus beaux que celui-là, en effet.
Après, le Real Madrid, où donc tu gagnes cette Coupe d'Europe, tu as deux titres de champion, tu passes à Bilbao. Bilbao qui, en termes sportifs, il y a moins de titres, tout ça. Mais est-ce que sur le plan humain et sur l'expérience, finalement, c'est pas la plus grande expérience de ta carrière de basketteur ?
Alors, avec Bilbao, on a quand même connu les meilleurs moments. Hein. Donc, on a vécu une finale ACB, on a vécu une finale UEP ici à Charleroi aussi. On a fait les playoffs en Euroleague, donc on a eu quand même trois super belles saisons. C'est vrai que bon, le trophée n'y sont pas, mais par rapport à l'histoire du club, je pense qu'on a fait les meilleures années. Ensuite, c'est clair que sur les points humains, c'est là où c'est où j'ai créé le plus de relations sociales, on va dire, avec mes amis. Et par la suite, j'ai connu aussi le pire, un club en difficulté financière. Ou avec une dernière année sportive catastrophique.
C'est ça, c'est là que ça fait le plus mal de vivre ça dans un club qui est, on peut dire, est-ce que c'est devenu ta deuxième famille, Bilbao, après
oui,
la Belgique ?
On peut dire que je retourne à Bilbao voir des amis, et on a une vraie relation là-bas. C'est une expérience, c'est-à-dire que dans une carrière, il faut vivre les échecs comme une expérience pour justement ne plus jamais se retrouver dans cette situation-là. Donc moi, ça m'a servi d'expérience, d'apprentissage, et je sais aussi ce qu'il faut faire pour ne pas rater une saison. Donc,
Est-ce que Bilbao, pour toi, ça représente quoi aujourd'hui ? Tu dis que tu y retournes souvent. Est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, de te voir plus tard, t'installer dans la région ? Est-ce que tu as vraiment encore des accroches sur place ?
J'ai encore des contacts avec des amis comme Raoul Lopez, Alex Mumbrou, Enrique Villalobos, c'est des amis vraiment proches. C'est-à-dire que la vision du sport en Espagne, je la partage fortement parce que c'est vraiment le haut niveau et c'est un environnement où toute personne a envie d'évoluer pour être au meilleur niveau, tout simplement. Et ça, c'est en tout cas mon ambition personnelle dans mon nouveau rôle. Et pourquoi pas un jour avoir la possibilité d'y travailler, oui. Mais pour ça, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
La Liga ACB, c'est une des plus grandes compétitions qu'il y a en Europe. Pour toi, ça reste le nec plus ultra du basket européen,
ouais.
Le rêve pour tout le monde, la
ouais.
Liga ACB.
Ça doit être l'ambition de tout joueur professionnel. Parce que tactiquement, techniquement, on voit des joueurs de haut niveau et on voit l'évolution, on voit un travail de fond, on voit des stratégies, on voit une philosophie de travail. Donc tout ça, c'est agréable de voir de l'extérieur et quand on s'intéresse un peu, c'est passionnant.
Toi, quand tu te dis que tu as évolué toutes ces années, toutes ces saisons en Ligue ACB, en Espagne, avec le recul, tu te dis parfois, waouh, quand même, ce que j'ai réussi à réaliser dans ma carrière de joueur.
Je ne vais pas dire waouh, mais je suis satisfait de ma carrière et je me dis plutôt, ah, si j'avais vu ça avant ou si j'avais compris ça avant, j'aurais peut-être évolué plus vite, mais la base du travail était là et je me suis toujours donné à 120%, donc non, je suis très satisfait de mon parcours.
Et dans quel sens tu aurais pu évoluer plus vite
C'est toujours des compréhensions sur la gestion du repos ou physiquement, ben, voilà, c'est des longues saisons parce qu'en plus de ça, on enchaînait avec l'équipe nationale. Donc c'était un peu plus une gestion de ma lecture, de ma carrière, un peu plus de gestion physique, de récupération, où je pense que j'ai appris un peu tard comment gérer mes efforts et mon corps. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais préféré où j'aurais aimé pouvoir avoir connu avant.
Ah, tu étais quelqu'un en plus sur le terrain qui n'était pas du tout dans la gestion. C'était
non,
du
voilà.
150% à tous les matchs.
Oui, maintenant on voit des façons de récupérer ou du travail post-récupération, tout simplement. Et c'est là où nous on n'a pas connu ça. Et aujourd'hui, il y a des vrais programmes en place qui sont très intéressants.
Pour revenir sur ton passage en Liga et tes saisons en Euroleague,
oui.
Quel souvenir tu en gardes de ce basket qui est quand même la compétition maîtresse en Europe, la plus haute qualité. Qu'est-ce que tu en retiens de ce passage en Euroleague?
Tu l'as dit, le haut niveau. Je pense que chaque détail est important. L'intensité, la concentration, c'est vraiment le haut niveau. Et j'ai la chance de pouvoir faire 6 saisons là-bas. Une année avec Bilbao, où on a été très loin. On a été éliminé par le CSKA Moscou de Kirilenko. Donc, c'est l'intensité et la concentration au plus haut niveau.
Tu termines ta carrière de joueur en revenant à Charleroi. Est-ce que c'est difficile, après avoir connu tout ce que tu as connu en Espagne, de mentalement se remettre dans la compétition belge et de rejouer la compétition belge?
Un autre choc où on doit s'adapter. En effet, c'est pas évident. La culture est différente. La luminosité belge est différente. Le rythme est différent. Donc, oui, c'est une adaptation à nouveau à avoir. Et c'est à nouveau du professionnalisme, c'est travailler et essayer de remplir ses objectifs avec le club à l'époque. Et c'était ça aussi, c'était un fameux challenge, et c'est pour ça que je l'ai relevé.
Et c'était important pour toi de boucler la boucle en Belgique, ou c'était pas spécialement prévu?
C'était pas spécialement prévu. Maintenant, mes contacts avec, à l'époque, Gabriel Jean étaient et sont toujours très constructifs et dans l'intérêt de développer le sport, et c'est ce qui moi me passionnait énormément à l'époque et qui me donnait l'opportunité de me former dans ma transition après le basket.
Vu ta carrière, tu es un grand ambassadeur du basketball belge, et ce qui le symbolise le mieux, c'était 134 sélections en équipe nationale. On sait à quel point tu as toujours eu ce sentiment d'accroche à l'équipe nationale, à quel point ça a été important pour toi de jouer sous ce maillot.
Oui. La première chose, c'est ce qui m'a toujours fait rêver en étant gamin. L'équipe nationale, je suivais énormément. C'est un symbole, c'est un exemple. Et donc, c'était important de pouvoir transmettre ça aux jeunes générations, enfin, à la nouvelle génération. Et donc, donner le maximum pour cette vareuse est pour moi la base du sport professionnel, en tout cas pour moi. Et puis après, la relation créée au fur et à mesure des années avec Jacques Ledur et Eddie Castells a fait qu'on a fait des résultats, et là aussi on a atteint des objectifs et on a grandi ensemble. Donc c'était un moment particulier aussi dans ma carrière.
Tu dis que c'est quelque chose qui te faisait rêver, et pourtant à l'époque où toi tu commences en équipe nationale, on avait l'impression que ça faisait plus rêver tant de monde que ça. Ça a été vraiment un processus à mettre en place pour que l'équipe nationale retrouve un peu ses lettres de noblesse. C'était difficile à cette époque?
Oui, c'est une période que je me souviens très bien où l'équipe nationale était un peu en perte de vitesse. Et donc, je pense qu'il y a eu une vraie symbiose entre le staff de l'époque et les joueurs, où on a été capable de recréer une dynamique et un travail pour atteindre différents objectifs. Et je pense que la conclusion est très positive, puisqu'on a été très loin dans différents championnats. On a atteint les championnats d'Europe. Au final, c'était une période importante aussi dans ma carrière.
Quand on voit ce qu'une équipe comme les Belgian Cats procure actuellement au basketball belge et à l'équipe nationale féminine, est-ce que toi, tu penses que les Belgian Lions peuvent arriver à embrayer et à prendre un peu ce chemin-là et aussi briller au sommet de l'Europe?
Alors, c'est clair que nous avons une génération dorée dans le basket féminin, et que c'est une source de motivation pour tout le basket belge. Maintenant, il y a énormément de travail pour pouvoir arriver à ce niveau-là, et je n'aspire qu'à une chose, et je n'espère qu'une chose, c'est qu'on arrive à mettre en place une structure, un modèle de travail qui donne la possibilité à nos jeunes basketteurs d'arriver un jour à ce niveau.
On a du talent en équipe nationale, mais est-ce que finalement, dans ce genre d'équipe, actuellement, est-ce qu'il manque pas un Axel Hervel au niveau du caractère?
Je ne pense pas. Je pense plus qu'il manque une structure de travail qui pourrait permettre l'évolution au plus haut niveau.
Oui, il y a le volet européen. On va dire que tu as, entre guillemets, tutoyer le volet américain, parce que dans l'histoire belge, tu resteras à jamais le premier joueur à avoir été drafté en NBA. C'était en 2005 par Denver. Est-ce que c'est un regret pour toi, finalement, de ne jamais avoir franchi ce pas vers la NBA?
Non, parce que ça a toujours été une décision prise en, en pleine connaissance de tous les facteurs, de tous les critères. Donc j'ai assumé cette décision-là, surtout que j'étais dans une période importante où j'avais des objectifs clairs avec le Real Madrid, notamment sur l'Euroleague, où mon rêve c'était de participer à un Final Four. Et en plus de ça, j'étais sous contrat. Donc difficile de sortir. Donc, mais l'expérience et visiter un peu l'équipe de Denver à l'époque était formidable. Je regarde de souvenirs positifs, mais je ne suis pas sûr que j'aurais été dans les meilleures conditions pour mon développement à ce moment-là.
Tu penses que tu avais plus, entre guillemets, à gagner en Europe à ce moment-là qu'en NBA, où tu aurais peut-être eu un statut qui n'était pas le tien en Europe à ce moment-là?
Exactement. Donc, j'exigeais un statut qu'on ne me garantissait pas aux États-Unis, et pour moi c'était la priorité, c'était pas le reste. Moi je voulais pouvoir jouer, évoluer et être sur le terrain.
Mais ça reste flatteur d'être drafté par une équipe NBA dans sa carrière.
Oui, c'est clair que ça montrait que j'avais fait des choses et qu'on avait fait des choses avec le Real Madrid qui pouvaient intéresser un club NBA. J'ai côtoyé les vestiaires, j'ai été là-bas, j'ai fait des tests. C'était fabuleux comme expérience. C'est un autre univers, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que mon jeu était quand même fort axé Europe et ma volonté d'accomplir des choses que je n'ai malheureusement pas pu faire par la suite. Mais j'avais bien des choses claires aussi à l'époque.
Tu avais pu rencontrer des joueurs de l'époque, des grands joueurs de l'époque à Denver quand
à l'époque, dans les vestiaires, c'était Allen Iverson, c'était Carmelo Anthony, c'était Smith, donc c'était quand même pas mal. Hein.
Le hasard veut que Toumani Camara, qui est maintenant le deuxième Belge à avoir été drafté en NBA cet été par Phoenix, est drafté à cette fameuse 52e position, exactement comme toi. Qu'est-ce que tu vois en lui? Est-ce que ça reste quand même important pour la Belgique d'avoir un représentant dans cette
ligue
NBA?
Bien sûr, je pense que c'est un vrai ambassadeur du basket belge, et j'espère qu'il en est conscient et qu'il va assumer ça à la perfection, parce que il peut être un vrai modèle pour notre nos jeunes les jeunes d'aujourd'hui. Oui.
Il est passé, lui, à un cursus totalement différent de toi, où tu as fait tes gammes en Belgique. Lui est parti très très jeune aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Que ça peut être une porte aussi pour certains Belges de passer par les États-Unis et de rêver de la NBA via ce processus-là?
En tout cas, il a réussi où personne n'a réussi. C'est-à-dire qu'en effet, c'est suivre le cursus universitaire, qui n'est pas du tout évident pour un étranger, je trouve. Parce que généralement, le développement d'un jeune Belge n'intéresse moins qu'un Américain, par exemple. Mais son parcours est très intéressant, et en tout cas, ça peut être un exemple, certainement, même si bon, moi, je pousse à un autre développement, qui est celui de l'Académie la Laurentine Exian Academy, qui est celle du Spiro Basket, qui est différente et qui sera tout aussi performante.
Quand je sais pas, est-ce que tu as suivi un peu Toumani Camara en Summer League?
Bien sûr, bien sûr.
Tu penses qu'il y a de réelles possibilités qu'il puisse faire son trou ou avoir des minutes quand même?
En tout cas, sa Summer League a été top. Physiquement, il peut évoluer facilement à ce niveau-là. C'est un athlète. Donc moi, je suis convaincu qu'en effet, si on lui donne l'opportunité et qu'il la saisit, il peut y arriver.
On l'a vu au dernier championnat du monde, même si ce n'était pas la meilleure équipe des États-Unis qui était sur place, l'écart de niveau qu'on sentait si grand il y a quelques années entre les États-Unis et le reste du monde est en train de se rétrécir, pour ne pas dire se combler. Toi, quelle est un peu ta vision entre États-Unis et Europe actuellement au niveau du basket?
C'est le développement, c'est la formation. Je pense qu'en effet, on voit le pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, pour rappel, il y a 15-20 ans, la Belgique était plus forte. Ou en tout cas, on allait jouer Bonn, on allait jouer à Berlin, on gagnait. Ici, il y a une vraie philosophie qui a été mise en place, similaire à celle que l'on peut connaître en France ou en Espagne, qui sont aussi des nations qui montent, qui rivalisent avec les États-Unis sans problème, qui est basée sur des académies, sur la formation, sur le travail, sur les fondamentaux. Et il est clair que si on veut développer un sport, c'est la base. Et ça peut aller vite. On voit les Allemands ici qui sont champions du monde parce qu'ils ont, ils ont beaucoup cru dans les infrastructures et dans la formation.
Quand on voit le niveau de l'Euroleague actuellement, QI basket, sciences tactiques, est-ce que pour toi la NBA n'est pas un peu surcotée?
C'est deux styles de basket différents. Je pense que la base de la NBA, c'est quand même le côté un peu marketing, où j'espère que l'Euroleague ne va pas aller vers. Maintenant, il y a quand même un travail de fond qui est de plus en plus fait aussi du côté des Américains, quand on a la chance d'aller un peu voir la Summer League, où on voit 10 entraîneurs qui s'intéressent, qui travaillent avec une nouvelle philosophie qu'il n'y avait pas à 15 ans. Quand je suis allé moi en Summer League il y a 15 ans, il n'y avait pas tout ce travail technique et tactique. Donc, des deux côtés, je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire et qui, en effet, se stabilise à une égalité qui est passionnante et intéressante.
Alors Axel Hervel, côté dirigeant maintenant, ça fait 3 ans que tu es ici dans la direction du Spirou, directeur général actuellement. Est-ce que c'était une voie à laquelle tu savais que tu allais te consacrer ou pas pendant que tu étais joueur?
Alors oui, ça a toujours été un peu mon objectif de préparer une formation dans le management avec cette sensibilité sur le développement de la jeunesse.
Ça c'est le principe numéro un du Spirou actuellement, du Spirou Basket, c'est d'axer sur la formation et cette jeunesse.
En tout cas, c'est depuis ma prise en fonction sur le volet sportif, ce que nous avons fait. Donc on a développé tout un club la première année, nous avons restructuré grâce à la venue de notre directeur technique Vincent Bouffiou, et la troisième année où nous avons développé une académie qui est dans un programme complet à cet entraînement avec des écoles partenaires et un internat.
En tant que dirigeant au Spirou Basket, à quoi associerais-tu le terme réussite? Qu'est-ce que serait la réussite pour toi dans ce rôle-là?
Forcément, nos objectifs sont axés sur le développement de la jeunesse, principalement. C'est-à-dire que le seul moyen que nous avons pour un petit peu piloter notre travail au quotidien, c'est pas les résultats collectifs, mais le développement du cas par cas. Et c'est-à-dire tout simplement le nombre de joueurs sélectionnés en régional, sélection en régional ou national. Et par rapport à ça, la représentation du Spirou, si elle est plus ou moins importante, on peut dire qu'on travaille bien dans notre recrutement et dans la formation de nos jeunes. Ensuite, au niveau sportif professionnel, il est clair que le résultat de l'équipe Fagnon est très important pour mesurer le travail aussi fait au quotidien.
Quand on sait ce que le Spirou était il y a 10 ans, en termes de résultats sportifs, est-ce que c'est difficile de remettre un peu une dynamique inversée dans ce club parce qu'il a fallu repartir justement de la formation pour essayer de retrouver petit à petit du résultat sportif?
J'ai envie de dire que l'histoire du Spirou n'est pas un frein, c'est une motivation. C'est clair que le nombre de titres est impressionnant et que... si on le voit à l'envers, on peut dire que ça peut être un frein. Mais pour nous, c'est une réelle motivation, sauf que la philosophie est différente. À l'époque, le spectacle était acheté. Ici, nous essayons de le construire et nous avons vraiment, et j'en suis convaincu, la meilleure équipe pour arriver à construire ce spectacle.
Est-ce que vu la conjoncture actuelle du basketball belge et les finances des clubs qui sont beaucoup plus bas qu'avant, le rôle de dirigeant, je suppose, c'est quand même bien plus difficile qu'à l'époque?
C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça, c'est clair que c'est beaucoup moins facile qu'il y a 15-20 ans. Maintenant, notre rôle à nous est d'être cohérent et d'être crédible dans notre travail au quotidien et de montrer la base du projet du sport, hein, c'est le développement, c'est justement recréer une identification, c'est recréer une communauté. Et pour ça, les valeurs du club sont très importantes et le travail de nos formateurs aussi.
Dans le développement du basketball belge, le Spirou a été une très très grosse locomotive. Tu as joué à Verviers-Pepinster, au Spirou de Charleroi. Quand on parle aussi de basket wallon, c'est important aussi pour toi justement de redonner un peu les lettres de noblesse à ce club pour tirer aussi le basket wallon avec.
Je pense que nous sommes le seul club à avoir les infrastructures pour pouvoir pour utiliser la philosophie de travail que nous avons actuellement. Parce que nous avons le Dôme qui est un outil merveilleux pour faire de l'événementiel. Et le match de basket est un événement. Mais surtout, la base de travail chez les jeunes, c'est d'avoir une infrastructure qui permette de faire beaucoup d'heures d'entraînement. Et Jumet est un outil merveilleux et unique en Europe, que moi je n'ai pas beaucoup vu, en tout cas, avec 6 terrains de basket où là on peut vraiment travailler, on peut mettre énormément d'heures, aussi bien des entraînements matinaux avant l'école, mais aussi après l'école, faire des événements importants de masse. Et donc nous avons une responsabilité dans cet investissement et dans cet axe de travail par rapport à la jeunesse. C'est une responsabilité, je dirais même un devoir.
Quand on voit la réussite que tu as actuellement avec le Spirou, qui évolue vraiment année après année, est-ce qu'il ne serait pas important d'encore plus investir dans d'anciennes gloires des joueurs comme toi, des Belges, dans les fonctions dirigeantes de nos clubs, et si pas plus haut?
Alors c'est marrant parce que c'est vraiment un volet important, sensible chez moi, parce que en effet on manque de personnes, Kirilenko, Garbajosa, quel autre encore, tous les dirigeants les plus importants dans le monde du basket sont des anciens joueurs parce qu'ils connaissent le haut niveau. Malheureusement en Belgique nous manquons un peu de représentation comme des anciens joueurs, mais en même temps il n'y a pas de formation mise en place pour travailler à une transition où ces anciens joueurs sont capables de pouvoir être prêts en tant que dirigeants. J'ai eu la chance, moi, d'avoir été conseiller à la FIBA pour suivre une formation dans le business du sport et avoir une compréhension de ce que c'est gérer une entreprise, un club de basket. Et j'ai encore énormément de travail et beaucoup d'expérience.
Je pense que la Ligue, par exemple, devrait peut-être offrir ce genre de formation à ces anciens joueurs.
Je pense que c'est intéressant à réfléchir, en effet, à préparer les transitions de personnes importantes dans le basket belge. On a besoin de connaisseurs de haut niveau, du côté élite. Le sport pour tous implique aussi le volet élite. C'est pas parce que nous parlons de bénévolat qu'on ne peut pas faire les choses sur du haut niveau. Et plus l'équipe Fagnon va jouer à haut niveau, plus elle va tirer tout son club derrière et pousser à l'évolution. Donc c'est une vraie question, je trouve, à aborder, parce qu'on voit les Français qui appliquent beaucoup ces anciens sportifs, on voit les Allemands, Dirk Nowitzki qui est présent sur toutes les scènes pour justement réformer et travailler le basket, la base du sport. Donc oui, non, c'est quand même c'est un sujet sensible, en effet.
Est-ce que si la Ligue vient vers toi et te propose un gros rôle en vue à la Ligue, c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis?
Je pense qu'on est déjà tous très, très impliqués dans la Ligue. Moi, je pense aussi le rôle de la Fédération, qui est important. Et c'est aussi important de comprendre comment travaille une fédération. Quelle est la vision d'une fédération? Quels sont ses objectifs? Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse, parce que tout simplement, c'est la base du développement du sport. Et c'est ce qui va nous aider à monter en connaissance et en niveau.
Merci Axel Hervel.